Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est 11h à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Charlotte Idrac. Charlotte, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour à toutes et à tous. À la une, les pourparlers Russie, États-Unis en ce moment, en Arabie Saoudite sur une éventuelle trêve en Ukraine. Moscou a dépêché deux négociateurs chevronnés après des discussions séparées hier soir avec la délégation de Kiev. En Turquie, Ekrem İmamoğlu a passé sa première nuit en prison. Le maire d'Istanbul, accusé de corruption, suspendu de ses fonctions, mais investi par son parti candidat pour la prochaine présidentielle. La contestation continue dans les rues. À suivre aussi ce lundi, la situation incertaine à Wali Kale Centre, dans l'est de la RDC. Les hommes armés du M23 ont annoncé leur retrait ce week-end, mais ils étaient toujours présents en ville hier soir. Et puis un monstre sacré du cinéma français attendu à la barre, Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle sur deux femmes lors d'un tournage. Procès emblématique du mouvement MeToo. Moscou a prévenu avant même le début des négociations avec les États-Unis. Elles sont qualifiées de difficiles par le Kremlin. Discussion en ce moment à Riyad, en Arabie Saoudite. Washington tente de pousser sa proposition de trêve temporaire en Ukraine, mais le président russe a déjà émis des réserves. Et pour ces négociations difficiles, donc, qui ont débuté ce matin, le Kremlin a dépêché deux spécialistes chevronnés du dossier ukrainien, Anissa El-Jabri.
Le porte-parole du Kremlin les appelle les meilleurs négociateurs de la Russie. Le diplomate et le sénateur Grigori Karasin, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, impliqué directement dans la rédaction des accords de Minsk 1 et Minsk 2 en 2014 puis 2015, soit la longue mise en place du processus de surveillance du conflit après la déstabilisation du Donbass et l'établissement de deux zones baptisées République de Donetsk et de Lugansk, deux zones sous influence de Moscou. L'autre figure bien connue, c'est Sergueï Beseda, aujourd'hui conseiller du directeur du FSB, les services de sécurité intérieure. Ce général en a longtemps dirigé un des départements, le cinquième service. C'est celui qui a justement, entre autres, en charge la collecte de renseignements dans les pays de l'ex-Union soviétique et donc l'Ukraine. Sanctionné par les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et le Royaume-Uni depuis 2014, Sergueï Beseda était encore aux manettes quand Vladimir Poutine a lancé ce qu'il appelle toujours une opération spéciale. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Et côté ukrainien, les pourparlers séparés avec les Américains ont eu lieu hier soir. Discussion productive, selon le ministre ukrainien de la Défense, notamment, dit-il, sur les questions d'énergie. Un attentat ce matin dans le nord d'Israël, à une quinzaine de kilomètres de la grande ville d'Haïfa. Un homme a ouvert le feu à un carrefour. Le bilan est d'un mort et un blessé, alors que l'État hébreu a rompu sa trêve avec le Hamas dans la bande de Gaza. Les opérations continuent. En déplacement en Israël, la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, appelle à un retour de l'accord de cessez-le-feu dans le territoire palestinien où la souffrance doit cesser, dit-elle. Israël et le bras de fer autour du limogeage du patron du Shin Bet, l'agence de renseignement intérieur. La procédure a été bloquée par la Cour suprême. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou accuse aujourd'hui Ronen Bar d'avoir enquêté sur un ministre sans son accord. En l'occurrence, le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir. En Turquie, sans surprise, Ekrem İmamoğlu, officiellement désigné candidat de son parti pour la prochaine présidentielle, elle est prévue en 2028, annonce du parti CHP après une primaire organisée hier. Il était le seul candidat, mais l'opposant est en prison. Le maire d'Istanbul a été suspendu de ses fonctions, accusé de corruption. Depuis son arrestation, mercredi dernier, des manifestations monstres ont lieu tous les soirs dans une grande partie du pays et notamment à Istanbul. Reportage Annen Lauer.
Her şey çok güzel olacak, tout ira très bien. Depuis son élection en 2019, c'est le cri de ralliement des partisans d'Ekrem İmamoğlu. Au soir de son incarcération, ils sont encore des dizaines de milliers à le crier devant la mairie. Un cri d'espoir et pourtant, Merve, une jeune femme aux cheveux violets, n'a pas le moral.
Je n'ai pas d'espoir car nous sommes face à une décision profondément illégale. La Turquie court vers la dictature. C'est le visage de notre pays qu'Erdogan donne au monde actuellement. C'est une raison de plus pour moi d'être en colère contre lui.
Our, un étudiant qui cache son visage sous une écharpe et des lunettes noires, refuse au contraire de se laisser abattre.
Tant que nous restons unis, personne ne peut nous tout briser. Ce que l'opposition doit faire, c'est ne surtout pas laisser tomber Ikrem Imamoglu, comme elle a laissé tomber d'autres figures de l'opposition emprisonnées avant lui. Si on ne le lâche pas, tôt ou tard, le gouvernement démissionnera.
Mutlu Yıldırım est vice-président de la branche jeunesse du CHP à Istanbul, le parti d'Ekrem İmamoğlu. Pour lui, il n'y a pas 36 solutions.
Tant que notre voix n'aura pas été entendue, tant que nous n'aurons pas récupéré nos droits, nous n'irons nulle part. Nous serons ici tous les soirs et nous finirons par ramener notre président Ekrem à la mairie.
Le pouvoir, lui, espère sans doute que la colère va retomber, que son opposition finira par se diviser. Devant la mairie d'Istanbul, sous le portrait géant d'Ekrem İmamoğlu, ils se sont promis le contraire. Anadolu Istanbul, RFI.
Et selon les le syndicat des journalistes de Turquie, 10 journalistes ayant couvert les manifestations ont été arrêtés. Au Groenland, le Premier ministre sortant dénonce une ingérence étrangère avant la visite annoncée pour jeudi d'une délégation américaine. Elle doit comprendre, entre autres, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis et l'épouse du vice-président américain, J.D. Vance. Et cela alors que le président Donald Trump a affiché son ambition d'annexer le territoire autonome danois.
RFI.
En République démocratique du Congo, c'est l'incertitude à Walikale Centre, dans le Nord Kivu, dans l'Est. Les hommes armés du M23 avaient annoncé samedi leur retrait pour favoriser, selon eux, le dialogue avec le gouvernement. Mais selon des habitants, des témoins, ils étaient toujours en ville hier soir, François Mazet.
Après 3 jours de tirs et de bombardements récurrents, la journée de dimanche était celle de l'accalmie à Walikale Centre. Alors que les troupes congolaises sont présentes dans les zones environnantes, le chef-lieu du territoire éponyme demeure sous le contrôle des hommes de la FCM 23. C'est ce qu'ont dit des personnes jointes sur place par RFI, comme cet habitant qui raconte les difficultés de ravitaillement.
Nous avons du mal à accéder à l'eau potable, c'est trop alarmant. Les routes sont dévastées, les maisons sont pillées, les boutiques ont été pillées partout. Les populations vivent des moments très très difficiles ici à Walikale.
Cette situation délicate a fait réagir certains acteurs politiques à Kinshasa. Le député national Michel Moto Mouima, membre de la majorité, a saisi ce week-end de la chambre basse du Parlement pour dépêcher une mission humanitaire d'urgence.
Il y a eu un mouvement de masse de déplacement de population. Une bonne partie est rentrée dans la brousse. Et là, nous comprenons que les conditions de vie sont très difficiles. Et nous estimons à plus ou moins 20 000 ménages en débandade, sans aucune assistance sanitaire, et il manque de tout.
Après un dimanche de statu quo, c'est une semaine d'incertitude qui débute à Walikale.
En France, c'est une affaire emblématique du mouvement MeToo dans le milieu du cinéma. Le procès de Gérard Depardieu, 76 ans, doit s'ouvrir là à la mi-journée à Paris. L'acteur connu dans le monde entier est accusé d'agression sexuelle lors du tournage d'un film en 2021, ce qu'il a toujours nié. Le procès, prévu d'abord en octobre, avait été reporté en raison de son état de santé. Cette fois, il sera bien là, affirme son avocat. L'enquête se poursuit après la violente agression d'un rabbin en pleine rue dans la ville d'Orléans. C'était samedi. Un suspect, un jeune homme, a été interpellé. Une nouvelle attaque à caractère antisémite qui a choqué la communauté juive et au-delà, dans la classe politique, les condamnations sont unanimes. Jonathan Arfi est président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Il tire la sonnette d'alarme sur la montée globalement de l'antisémitisme en France et notamment chez les plus jeunes.
Nous avons des remontées d'incidents antisémites très nombreuses qui surviennent au sein de l'école de la République. Des élèves juifs sont pris à partie, sont parfois agressés ou harcelés, mais le plus souvent c'est un mur insidieux, silencieux de rejet social. Une statistique peut-être pour illustrer cela, 16% des collégiens et des lycéens en France refusent d'être amis avec un élève parce qu'il est juif. C'est ça la réalité aujourd'hui de l'antisémitisme dans notre pays. Ce sont des chiffres que nous avons publiés il y a une dizaine de jours avec l'IFOP, dans le cadre d'une étude sur l'antisémitisme à l'école. Face à ça, la réponse elle est assez simple. Beaucoup d'élèves cachent leur identité juive quand ils le peuvent. Et puis d'autres, malheureusement, sont parfois réduits à devoir quitter l'école publique pour trouver une place en école privée confessionnelle pour se protéger de ce climat délétère.
L'inquiétude du président du CRIF, joint par Rebecca Arondel, et puis le préfet de police de Paris vient par ailleurs d'annoncer l'interpellation de 7 personnes pour des saluts nazis hier soir durant le match de football entre la France et la Croatie. Le sport doit rester une fête, dit le préfet. Fête pour les Bleus qui l'ont emporté au bout du bout de suspense au tir au but qualifié pour les demi-finales de Ligue des Nations. Ce sera face à l'Espagne.